Bookmakers.
Les écrivains au travail par Richard Guettet
sur Arte Radio.
Toujours, toute ta vie, tu t'identifieras aux choses tordues, ébréchées, de guingois, un peu cassées, comme toi. Si tu achètes aux puces tes meubles et tes habits, c'est moins pour faire des économies que parce que tu as pitié des objets rejetés, venus y échouer. Les arbres qui réussissent à pousser autour de grillages métalliques te fendent le cœur. Privé, comme Romain Gary, de tout sentiment de sécurité à l'endroit de l'amour maternel, comme lui, tu ne sauras t'aimer qu'à travers les autres. De préférence, souffrant.
C'est une Calamity Jane du Canada qui s'installe presque sans un sou à Paris à 20 ans, avec à la ceinture le besoin durable de comprendre, de réparer, de lever l'interdit de la discrétion et de la politesse en faisant l'éloge de tout ce qui déstabilise. Un demi-siècle plus tard, l'effrontée Nancy Houston, qui vit et travaille toujours dans notre capitale, est l'autrice acclamée de plus de 70 livres depuis 1979, publiés pour la plupart aux éditions Actes Sud. Citons, parmi sa caravane de romans, essais, poèmes, pièces de théâtre, scénarios, chansons et traductions, Instruments des ténèbres, en 1996, Goncourt des lycéens et prix du livre inter, vendu à 125 000 exemplaires, ou Ligne de faille, en 2006, prix Femina, écoulé à 400 000 exemplaires rien qu'en France et traduit en 45 langues. Pour ce 30e numéro de Bookmakers, au fil de 4 années pétaradantes sur Arte Radio, quelle joie de recevoir cette co-girl bilingue, sauvagement honnête, venue des plaines de l'Alberta, à l'aise dans ses Santiago et pourtant allergique aux chevaux. Cette féministe historique a vécu, confie-t-elle, frénétiquement, à l'affût d'une idée ou d'une information, avec son carnet à la main, des horaires de travail extrêmement stricts et un patron intérieur incroyablement sévère. Mais quel événement de son enfance l'a ébréché au point d'écrire si souvent des histoires de famille déboussolées, meurtries, recomposées? D'où viennent ces voix intérieures? Pourquoi choisir Alice au Pays des Merveilles comme personnage totem? Quelle leçon garde-t-elle de ce maître qui mettait de la saveur dans le savoir, le redouté Roland Barthes, auteur du degré zéro de l'écriture? Sous sa tutelle, a-t-elle réellement écrit un mémoire sur les insultes? Est-il vrai que ses premiers textes publiés, au sein des revues Sorcières et Histoire d'elle, fourmillaient de calembours, signe de son écoute pathologique des coïncidences sonores de notre langue? Ce sont quelques-uns des sujets de ce premier épisode où Nancy vient à nous sans passer par la Lorraine. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Richard Guettet.
Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire? Un seul mot.
Ailleurs. Nous nous créons et nous nous reconnaissons dans le regard de la mer. Et si ce regard est ailleurs, eh bien, on va tout faire pour être ailleurs. Et donc, j'ai tout fait pour être ailleurs. Je porte des ailleurs divers à l'intérieur de moi et je ne coïncide jamais complètement avec l'endroit où je suis.
Est-ce que le mot lui-même, ailleurs, est-ce que vous l'utilisez souvent dans vos livres?
J'espère que non, parce qu'il n'est pas très beau. En anglais, il est beaucoup plus beau, c'est « elsewhere ». Ailleurs, c'est un peu dur, un peu coupant.
Il y a aïe déjà dedans, il y a une blessure.
Aïe.
Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
Très. J'aimais trop souvent très. Et puis des adverbes qui se terminent donc en « ment », extrêmement, extraordinairement, absolument. J'essaie de les couper à la relecture. Ça, c'est des tics qui m'énervent. Des tics qui sucent mon sang.
Des tics qui
me sucent le sang.
Nancy Houston, vous êtes née en 1953 à Calgary, la troisième plus grande ville du Canada, dans les plaines de l'Alberta, ce nord que vous avez trahi et perdu. Comme vous l'avez très habilement raconté dans votre livre « Bad Girl », vous devez votre vie à un avortement raté, qui vous a donc permis de naître au sein, je cite, « d'un jeune couple protestant de classe moyenne au bord de la mésentente conjugale ».
Je n'ai aucune preuve de ça. C'est une pure déduction romanesque, parce que personne ne me l'a jamais dit. Si je fais cette hypothèse, je trouve qu'elle explique beaucoup de choses. Je me vis comme quelqu'un qui a survécu à une tentative de meurtre.
Votre père est d'abord météorologue. Il gagne sa vie en travaillant par exemple pour l'aviation canadienne. Il sera ensuite professeur de maths et de physique, spécialiste en cosmologie et autres théories sur l'origine de l'univers. Sujet à des épisodes dépressifs, c'est globalement un joyeux luron avec lequel vous parlez de philosophie, d'économie, d'écologie, qui chante des chansons désopilantes et raconte des histoires de fantômes. Avez-vous une bonne histoire de fantôme à nous raconter ?
C'était tous les vendredis soirs, surtout pendant l'été, on avait droit à ces histoires de fantômes. Ma préférée, c'était l'histoire d'un petit garçon à qui sa mère donne de l'argent pour aller acheter du foie à la boucherie. Et il est trop tenté par les bonbons, alors il dépense l'argent à acheter des bonbons et il n'a pas de foie. Mais en rentrant, il voit qu'il y a eu un accident de voiture. Il y a un mort par terre, donc il l'éventre, il sort le foie, il revient et il apporte le foie à la maison. Tout le monde en mange sauf lui ce soir-là, il va se coucher, il fait semblant d'être malade, mais il est très content de sa petite ruse. Et la nuit, il commence à entendre une voix. D'abord lointaine et puis qui s'approche de plus en plus et qui dit... Donne-moi mon foie. Et ça devient de plus en plus près. Et là, on était. Rends-moi mon foie. On tremblotait, on grelottait, on avait très peur. La voix se rapproche, la porte s'ouvre. Et la dernière phrase, c'est. Ça y est, je l'ai. Se jette sur lui. On était épouvantés. Donne-moi mon foie. Mon père lisait très peu de littérature. Il lisait beaucoup le journal. Et dès qu'il y a eu Internet, il a commencé à se perdre dans les différents sites qui lui permettaient d'explorer des questions de plus en plus loin.
Écrivait-il de la fiction ?
Il n'a jamais fait aboutir un seul texte. À sa mort, j'ai hérité d'un petit classeur rempli de cartes Bristol qui contenait des échardes de pensées. Mais je n'ai jamais pu reconstituer quelque chose qui aurait ressemblé à une vitre ou un miroir à partir de ces échardes. Parfois, c'était des citations, parfois, c'était des notes prises après des séances de psychothérapie. C'était un homme très troublé et sa dépression nous a marqués tous. Son sentiment de ne pas avoir accompli ce qu'il était là pour accomplir. Je crois qu'il avait une sorte de deal avec Dieu, comme quoi Dieu lui confiait la mission d'expliquer aux gens le lien entre la physique et la métaphysique. Et ça, il n'a jamais pu en accomplir le premier pas, parce qu'il était trop pris par sa... très nombreuses marmailles et ses responsabilités paternelles qu'il prenait très, très au sérieux. J'ai le souvenir de lui déjà âgé dans une dodine, comme disent les Haïtiens, un fauteuil à bascule, qu'il lisait à ses petits-enfants. Et c'est l'image même du bonheur. J'essaie de le répéter maintenant avec mes petites filles.
Votre mère, elle, est une étudiante brillante qui a décroché une bourse pour écrire un mémoire de sciences politiques. Elle a eu 3 enfants entre 20 et 29 ans, 2 filles et un garçon, avec vous au milieu. Elle ne supporte pas de vivre comme une ménagère des années 50, un peu comme le personnage de Julianne Moore dans le film The Hours de Stephen Daldry. Sur quel sujet portait son mémoire ?
Je sais qu'elle était très préoccupée par la guerre froide tout au long des années 50, par le macartisme aux États-Unis, mais je ne sais pas ce qu'elle avait voulu faire cette année-là. La réponse, c'est que je ne sais pas.
Que lisait-elle côté roman ou poésie ?
Alors ma mère, au contraire, est une grande lectrice, elle est encore en vie. Je crois qu'elle lit encore dans l'EHPAD où elle est à Toronto. Elle m'envoyait des livres, elle m'a fait cadeau, ça c'est très très important. Le Noël avant son départ, quand j'avais 6 ans, elle m'a offert un grand livre, un recueil de contes, légendes, extraits de romans, poèmes. C'est un peu le livre d'or de la littérature britannique, qui est un trésor.
Et, avec des textes de Robert Louis Stevenson, John Keats.
Exactement. Et j'ai dû mémoriser beaucoup de poèmes là-dedans au cours de l'enfance pour me sentir proche d'elle.
You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white. And yet every evening you stand on your head. Do you think at your age it is right?
Tu es vieux, Père William, dit le jeune homme, et tes cheveux sont devenus très blancs, et pourtant, chaque soirée, tu fais le poirier. Tu crois qu'à ton âge, c'est séant ?
Votre mère écrivait-elle de la fiction ?
Pas que je sache, mais elle a écrit de nombreux livres. Elle en a écrit sur une militante antinucléaire canadienne. Étrangement, elle a fait un livre sur les romancières canadiennes avec un chapitre sur Nancy Houston, sur Cantique des Plaines. Et elle ne me l'a jamais envoyé. Je l'ai trouvé par hasard sur les étagères de mon frère.
C'est votre grand frère qui vous apprend à lire à 4 ans. Quand il revient de l'école, vous lui demandez de vous transmettre tout ce qu'il a entendu dans la journée. À 5 ans, vous lisez parfaitement. Vous lisez quoi ?
Très tôt, j'ai commencé à lire... Anne of Green Gables.
C'est-à-dire Anne ou la maison au pignon vert, premier tome d'une saga pour la jeunesse, signée de la Canadienne Lucy Maud Montgomery, publiée en 1908 et vendue à des millions d'exemplaires.
Ça se passe dans l'île du Prince-Édouard, à l'est du Canada, qui était le lieu d'enfance de ma grand-mère paternelle. Et donc, ça, c'est des images. Il y a une des filles. Ben, moi, j'étais un peu comme ça. J'étais garçonne. En anglais, on dit tomboy. J'aimais beaucoup me bagarrer avec mon frère. Et très tôt aussi, j'ai rejoint l'équipe de football américain, sauf qu'on jouait sans casque. Et je me jetais dans la mêlée. J'étais la seule fille.
À quel poste ?
Je pouvais prendre plusieurs, mais j'aimais beaucoup être attaquante.
C'est quarterback ?
Non, ouais, c'est pas la même chose. Oui, ouais. Tout à fait. Et puis, je lisais l'équivalent de la Bibliothèque Rose. Donc, les choses un peu gnangnan aussi. Quand on allait en vacances avec notre cousine, elle nous apportait des magazines avec True Confessions. Ça, c'était très important aussi, où les gens racontaient leurs déboires amoureuses et sexuelles. On lisait entre nous trois en cachette.
Comme vous l'avez expliqué dans un excellent livre d'entretien mené par Sophie L'Huillier, intitulé « Je chemine avec Nancy Houston », publié au Seuil en 2021, où j'ai puisé pléthore d'informations pour cette conversation, ce qui caractérise votre petite enfance, c'est l'instabilité. Les différents boulots de votre père amènent la famille à beaucoup déménager, 18 fois en tout, du Texas au Mexique, de l'Ontario à la Colombie-Britannique, ce qui explique peut-être votre façon de changer d'univers à chaque roman. Conséquence, à l'école, vous êtes toujours la nouvelle, l'étrangère. Vous n'appartenez à aucun groupe. À la maison, l'ambiance est passablement chaotique, le mariage pas bien solide, et au bout de 9 ans à ce rythme, votre mère décide en 1959 d'abandonner sa famille. Vous avez 6 ans. Il se trouve qu'au même moment, votre père a rencontré une jeune et belle Allemande, très amoureuse de lui, qui se propose de devenir la mère de ses enfants, une femme que vous aimerez beaucoup. Votre père se remariera avec elle, et cette dernière donnera naissance la même année à 2 garçons, un en janvier, un en novembre. On vous dit, voilà, maintenant, c'est elle ta mère, tu l'appelles maman, tout le monde s'entend très bien, et ta mère, elle, t'aimera toujours.
Été 1959, moment difficile. Vers la mi-juillet, les trois adultes concocteront un projet étrange mais émouvant. Ensemble, ils amèneront les trois enfants en pique-nique pour leur expliquer la situation de façon aussi claire et concertée que possible. Il s'agit de leur montrer le bel accord qui règne entre eux. Sous vos yeux, la mère cueillera un bouquet de marguerites et l'offrira à la future belle-mère. Chaque fois que tu songeras à ce tournant plus tard, tu seras tellement ému par la douleur d'Alison, c'est-à-dire la mère, que tu en oublieras la tienne. Plus jamais tu ne prêteras foi aux apparences harmonieuses. 90% de ton œuvre littéraire est contenue dans ce seul après-midi. Un peu comme l'énergie nucléaire est compressée dans une bombe atomique. S'ensuivra une longue, lente et silencieuse explosion de mots avec d'infinies retombées radioactives.
Nancy Houston, Bad Girl.
Plusieurs fois dans ma vie adulte et même récemment, je vois que là où les autres ont des alarmes qui commencent à sonner et se préparent à réagir à une situation dangereuse, moi je suis là complètement engourdie, des œillères, je continue de sourire et de faire comme si de rien n'était. Ça c'est probablement un des effets lointains, une de ces retombées radioactives du trauma. Je peux aussi dire que je suis extrêmement reconnaissante parce qu'il est évident que si je n'avais pas eu cet événement fracassant au début de mon parcours, je ne serais pas là en train de discuter avec vous dans une langue étrangère et je n'aurais pas écrit ces bouquins, c'est très très sûr. Notre belle-mère allemande était catholique, elle avait honte d'avoir épousé un divorcé et donc elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle n'était pas notre mère. Je trouve ça choquant, mais c'est le début de ma vie de romancière. On m'a donné l'ordre de mentir sur le fondamental. Et du coup, on ne pouvait pas dire la vérité, à savoir, notre mère nous manque.
Après le départ de votre mère, vous la reverrez un an plus tard, à 7 ans, puis plus du tout pendant 4 ans, puis environ une semaine par an pour les vacances jusqu'à l'âge adulte. Vous n'avez pas compris pourquoi elle avait eu besoin de mettre autant de kilomètres entre vous. Jamais moins de 500 kilomètres et le plus souvent, la distance sera de l'ordre de 5000. Cet éloignement physique vous donne une énigme. Pourquoi? Comment? En réaction, enfant, vous vous démultipliez. Avec le recul, c'est comme si vous étiez en même temps les 4 enfants de votre roman « Ligne de faille » qui ont tous 6 ans. Vous étiez perverse et cruelle comme Sol, perplexe et nerveuse comme Randall, extrêmement triste et en colère comme Sally, euphorique et joyeuse comme Christina. J'imagine que ce n'est pas par hasard si vous avez donné cet âge-là à vos 4 personnages.
Je me souviens très bien de mes 6 ans. Et effectivement, je suis ces 4 enfants-là. J'ai commencé ce livre, Ligne de faille, après un séjour aux États-Unis où j'avais regardé le fonctionnement des familles de mes petits frères là-bas, mes demi-frères, qui étaient papa à leur tour et avaient donc épousé des Américaines. Et j'étais un peu abasourdie par la manière dont on éduquait ses enfants. Donc il y a des éléments de ça. Mais je fais feu de tout bois. Il y a un moment où je suis éponge. Je prends des notes, je rigole. Je n'ai pas essayé d'imiter la manière de parler d'un enfant de 6 ans. J'ai essayé de respecter ce qu'ils pouvaient comprendre, qu'ils ne peuvent pas forcément formuler. Si ça crée une émotion en moi, je me dis que je suis sur le bon chemin. Je sais si je suis en train de forcer les choses, si j'oblige l'enfant à transmettre une idée à moi ou une conviction, ou que je suis en train de planter une information pour être sûre de le retrouver plus tard. Ça, c'est la cuisine, véritablement, de la littérature.
Malgré son absence, votre mère vous a communiqué ses passions. Elle voyageait et racontait par lettres sa vie à Londres, Madrid, Majorque, Montréal.
Ma mère était, après avoir essayé de faire sa thèse à Chicago ait échoué pour cause de dépression, c'est-à-dire qu'elle était quand même effondrée d'avoir quitté les enfants. Elle part à New York, puis Londres, puis Madrid, puis Majorque. Elle passe plusieurs années en Europe. Et quand elle revient, elle s'installe à Montréal. Et c'est elle qui décide, bien sûr, de chacun de ses déplacements. Je crois que si je suis venue à Paris, c'était aussi pour dire « moi aussi, je peux mettre de la distance ». Vous voyez, si j'ai rejeté la langue anglaise, c'est pour dire moi aussi je peux rejeter la mère, pas seulement être rejetée par elle. Parce que c'est une chose peut-être féministe et courageuse de dire basta, je m'en vais, je ne peux plus supporter cette situation. Mais c'est autre chose de ne jamais aider les enfants financièrement. Aucun d'entre nous n'a reçu un centime de notre mère qui avait un niveau de vie beaucoup, beaucoup plus élevé que notre père. C'est une grosse source de colère parce que j'en ai bavé. La mère quittera Londres pour Madrid, puis Majorque. Ses lettres regorgeront de coutumes et de climats exotiques, de châteaux et de corridas, fêtes de Guy Fawkes à Londres, canicules et calamars à Madrid. Ainsi deviendra-t-elle l'héroïne préférée de ton roman préféré. Tu t'observeras en permanence pour ne pas oublier des détails qui, dans tes réponses à ses lettres, pourraient l'intéresser, l'inciter à t'aimer et à penser à toi et à vouloir te revoir. C'est ainsi que, peu à peu, tu transformeras ta vie quotidienne en roman, t'efforçant, tâche ardue, de rendre tes descriptions aussi palpitantes que les siennes. Elle quittera Majorque pour Montréal, se remariera et mettra au monde deux autres enfants, mais ses lettres, cartes et cadeaux continueront d'arriver. Ils te suivront dans tes propres déménagements. Chère Dorit, ma douce petite Dorit, comment vas-tu, ma gentille Dorit adorée? Ces lettres t'aideront à rester en vie. Et quand plus tard tu te mettras à écrire des livres, la deuxième personne sera toujours celle que tu préfères, étant donné qu'il n'y a pas assez de place dans le monde pour « je », que « il » et « elle » mettraient trop de distance entre toi et tes personnages bien-aimés. Tu veux leur parler tout le temps, comme s'ils étaient dans la pièce avec toi. C'est pourquoi, livre après livre, tu diras « you, you, you » et « tu, tu, tu ». Et il en ira de même, Dorit, pour ce livre-ci, où ta vie elle-même sera transformée en lettres, et toi, qu'on le veuille ou non, drôle de petit chamois vaillant devenu dame vieillissante, en femme de lettres.
Nancy Houston, Bad Girl.
Ces lettres que vous écrivez pour attirer son attention, c'est le premier laboratoire d'écriture pour vous?
Très certainement. Et c'est extrêmement rare, en fait, pour une petite fille d'avoir à écrire à sa mère. Des trois enfants, j'étais probablement celle qui écrivait de la manière la plus régulière et la plus névrotique.
Votre mère a continué à étudier, à accumuler des diplômes en histoire de l'art. Elle sera par la suite enseignante, psychologue. Durant les années 90, vous exorciserez son départ dans un roman au titre très bien choisi, La Virevolte, focalisé sur une danseuse qui abandonne ses deux filles pour pleinement vivre sa passion. Vous dites souvent que vous n'écrivez pas pour vous soigner. Même là, ça ne guérit rien.
Certainement pas. On n'a pas envie de guérir parce qu'on a envie de continuer d'écrire. Hélas, il était trop tard. Alice continuait de grandir et grandir, tant et si bien qu'elle dut s'agenouiller sur le plancher. L'instant d'après, elle n'avait même plus assez de place pour y demeurer à genoux et elle essaya de s'allonger, un coude contre la porte et l'autre bras replié sur la tête. Elle n'en continuait pas moins de grandir et en dernier recours, elle passa un bras par la fenêtre, un pied dans le conduit de la cheminée puis se dit « Maintenant, je ne peux rien faire de plus, que vais-je devenir ?»
Le personnage qui vous a le plus marqué dans votre enfance est Alice au Pays des Merveilles. Parce que l'héroïne inventée en 1864 par Lewis Carroll osait exprimer sa colère, faire des bêtises sans être punie, n'avait pas peur de jouer avec les mots, de sauter dans le trou du lapin, avait des camarades bizarres et inhabituels, et, plus symboliquement encore étant donné votre profession, tombait dans l'encrier.
Ce sont des images oniriques, très importante et c'est une libération en cela aussi, la littérature. C'est de l'autre côté du miroir, c'est qu'on a le droit d'avoir des images irréalistes mais qui sont vraies. C'est cette vérité-là que je recherche aussi. Mes parents se sont rencontrés dans une production pour le théâtre de Alice au Pays des Merveilles. Je le dis dans mon tout premier livre qui s'appelle « Jouer au papa et à l'amant ». La couverture du livre est un de ses dessins de Lewis Carroll. Et ma mère jouait le Loir dans la théière et mon père jouait Tweedledum, un des deux jumeaux qui participe à ce déjeuner avec le chapelier fou. L'origine de mon existence, c'est une mise en scène d'Alice au Pays des Merveilles. J'adore. Quand je lisais des contes de fées, je m'imaginais que des aventures de ce genre n'arrivaient jamais. Et maintenant, voici que je suis en train d'en vivre une. Faudrait écrire un livre sur moi, vraiment. Et quand je serai grande, j'en écrirai un moi-même. Mais je suis grande à présent, ajouta-t-elle d'une voix triste. En tout cas, je n'ai pas ici la place nécessaire pour grandir davantage.
Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles.
Nancy Houston, vous avez commencé par écrire des poésies à 10 ans. À quoi ressemblaient ces poésies ?
Je me souviens d'un poème écrit avant, sur cet œuf dans les contes de la mère Loire, Mother Goose Tales, comme ça, il y avait un célèbre œuf qui était assis sur un mur, il dégringole et tous les rois et les reines sont incapables de le réparer. C'est une histoire de destruction irréversible.
Et c'est aussi un personnage d'Alice au Pays des Merveilles.
Humpty Dumpty, c'est vrai. Et moi, j'avais écrit Humpty Dumpty was a Swiss egg. Humpty sat on a dynamite keg. He flew through the air so sudden, so soon, and now he's still up there, the man in the moon. Donc, en fait, dans ma version, il ne meurt pas. Il est assis sur un paquet de dynamite et ça explose et il part et maintenant, c'est l'homme dans la lune.
À 11 ans, vous trouvez dans la bibliothèque de votre père un roman à succès de 1964 intitulé « Jamais je ne t'ai promis un jardin de roses », signé de la New-Yorkaise Joanne Greenberg sous le pseudonyme d'Anna Green. C'est le récit d'une adolescente qui entend des voix, celle de Dieu merveilleux qui d'abord la célèbre, la conseille, puis ses voix la condamnent à des punitions et elle commence à se mutiler. On lit aussi le récit de sa psychothérapie. Ce livre vous saisit. Vous avez pour lui une reconnaissance sans borne. Pourquoi ?
I never promised you a rose garden. Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses qui a besoin d'être réédité en français, je dis entre parenthèses. C'est la première fois que je me suis reconnue dans ce que j'avais de plus fragile. C'est une forme de schizophrénie, d'être habitée par des voix. Et comme beaucoup de jeunes femmes qui peuvent avoir subi des abus sexuels, ce qui a été mon cas, qui peuvent avoir subi des sentiments de dissociation, d'insécurité, de difficulté de se construire, je me suis attaquée à mon propre corps. Je me souviens de m'être fait saigner, d'avoir percé les bouts de mes doigts et des choses comme ça autour de l'adolescence. Et ça aide énormément quand vous voyez un personnage dans lequel vous vous reconnaissez et qui va entamer donc une psychothérapie. C'est déjà assez rare, je pense, dans les années 60. Donc, c'est un peu le modèle de la femme que je pouvais appeler de mes voeux, que cette psy qui va écouter les problèmes de la petite et essayer de trouver ce qui ne va pas et comment remédier à sa détresse.
Dans la foulée du départ de votre mère, vous êtes vous-même atteinte de troubles obsessionnels compulsifs sous la coupe de dictateur intérieur et vous commencez à entendre des voix. Vous inventez vos premiers personnages, la famille Trixie, des personnages invisibles qui se comportent en tyran avec vous, c'est-à-dire.
C'était vraiment une souffrance silencieuse entre 7 et 12 ans. Donc, je n'avais pas le droit de marcher sur la fente des trottoirs. Il fallait que je compte mes pas. Il fallait que je m'excuse 5 fois si je lâchais un rot ou un p, etc. Il y avait une surveillance maniaque de tous les instants de la vie. Si je suis devenue romancière, c'est pour canaliser les voix intérieures qui m'accompagnent absolument tout le temps.
vous parlez aussi à vous-même, à la troisième personne, comme si vous étiez un personnage de roman ?
Oui, je me déréalisais, je me mettais à distance, je disais... Nancy traverse la pièce, elle prend une fourchette dans le tiroir, elle le pose sur la table. C'est un bon terrain d'entraînement pour le roman, ça. Maintenant, quand j'anime des ateliers d'écriture, j'en ai animé un récemment où j'ai demandé qu'on fasse le tour de table et que chacun, chacune se présente en disant son nom et son métier, s'il y en avait un. Et ensuite, on a fait immédiatement un deuxième tour de table et je leur ai demandé de me dire un faux nom et une fausse activité. Un faux métier. Et c'était déjà totalement libérateur.
Pendant ce temps, vous lisez de manière pathologique, en allant à l'école à pied, en mangeant, en allant aux toilettes, sur la banquette arrière de la voiture ou sous la couette avec une lampe torche. Vous déployez des montagnes d'efforts à être extraordinairement parfaite dans cette enfance. Vous êtes mignonne et maligne, boulimique de mots, première de la classe, brillante au piano, à la danse, en allemand, charmante, douce, obéissante et totalement dissociée. Car tout ceci s'accompagne d'auto-détestation. Puis votre père est nommé professeur de physique dans un lycée bucolique du New Hampshire, le lycée Waldorf, situé au fond des bois, dont les frais de scolarité sont astronomiques, mais pas pour les enfants d'enseignants. Les classes sont petites, les profs exceptionnels. La prof de français, une Alsacienne extravertie, vous fait lire Jean-Paul Sartre et Boris Vian, chanter Piaf et Brel, voir les films de Marcel Carné ou François Truffaut. Mais l'amour de la littérature vous vient de votre prof d'anglais, Gene Miller, un juif new-yorkais de 25 ans, drôle et bavard, incroyablement cultivé, passionné de musique et de théâtre. Dans son atelier d'écriture, vous découvrez des poètes, des romanciers, et il vous incite à écrire de la poésie, des nouvelles. Sur quel sujet ?
Une discussion entre deux frères dans une gare, et ils parlaient avec beaucoup de douleur de leurs parents, de l'oppression qu'ils avaient vécue. Et puis il y avait les pensées de la serveuse juste à côté, qui était sur une toute autre tonalité. Et encore maintenant, je trouve ça extrêmement jouissif de passer d'une voix à l'autre, d'un ton à l'autre, d'avoir un nouveau départ très régulièrement. Je crois que je n'aime pas m'enliser dans un long récit unique.
Les quatre murs de la chambre de ce professeur sont recouverts de livres. Si vous savez ce détail, ce n'est pas par hasard. Vous tombez amoureuse de cet enseignant, 10 ans plus âgé que vous, et vous devenez amant avant la fin de votre année de première. C'est votre premier amant. Cette histoire durera plusieurs années. Si la question suivante vous paraît trop indiscrète, n'y répondez pas. Ce professeur a-t-il eu des scrupules à entamer une relation avec l'une de ses élèves âgée de 15 ans, qui, a fortiori, est la fille d'un collègue ?
Il n'a pas eu de scrupules du tout. Certains scrupules sont venus de mon père, mais à peine. D'ailleurs que mon père était au courant. Et je peux dire que c'était l'époque des hippies, de Let It All Hang Out, de Woodstock. Les mœurs étaient soudain extrêmement libres, ou se prétendaient telles. Cet homme est toujours... en vie et très actif dans sa communauté à l'ouest du Canada maintenant. Mon père avait aussi des amantes beaucoup plus jeunes que lui et je pense que l'accord était qu'on allait garder tout ça secret par rapport à ma belle-mère et ce n'était pas une situation très saine. Ensuite, il y a eu des gestes extrêmement violents de cet homme sur moi qui m'ont marqué, je pense, à vie. Et ça, je suis attentive toujours et très, très heureuse du mouvement MeToo, bien sûr. Ce qui est frappant dans mon cas personnel, c'est que j'ai mis très longtemps à trouver ça un événement négatif, parce que j'étais consentante. Je suis toujours très soucieuse de la nuance dans l'analyse de ces situations et aussi de comprendre d'où venait ces gestes de sa part.
Adolescente, vous vous voyez devenir professeur ou carrément star de cinéma. Vous ne formulez l'idée d'être écrivaine qu'à partir du lycée. Cette idée naît-elle au contact de cet homme, de ce professeur ?
C'est bien possible. C'est lui qui me fait découvrir les écrivains comme Norman Mailer, E.E. Cummings, que je lis encore aujourd'hui avec énormément de plaisir, des poétesses comme Edna St. Vincent Millay, que ma mère aimait aussi, comme Emily Dickinson, qui est une femme absolument géniale, mais aussi des écrivains européens. je n'avais jamais entendu parler de Brecht. C'est le début de l'ouverture vers cet infini de la littérature, mais c'est aussi quelqu'un qui avait une conscience politique. Donc oui, je peux dire que j'ai reçu le pire et le meilleur de la même personne.
Après le lycée, vous partez vivre à Boston. Pour financer vos études supérieures, vous êtes secrétaire médical en clinique psychiatrique. C'est là que vous sombrez dans un trou noir. Je cite, « Vous avez envie de mourir, les psys vous tripotent, y compris le vôtre, qui essaie de vous embrasser à la fin de chaque séance. Vous contrôlez votre poids de manière obsessionnelle jusqu'à l'anorexie. Votre père a des problèmes d'argent, vous lui prêtez la moitié de ce que vous gagnez. Vous déménagez à New York en travaillant comme dactylo pour un psychanalyste un peu fou, ou quelques jours comme escort girl dans des bars en encourageant les clients à vous payer à boire, ou un après-midi à faire jouir 5 inconnus dans un salon de massage contre une poignée de dollars à 18 ans. La prostitution sera l'un des sujets récurrents de votre œuvre, aussi bien dans vos essais que dans vos romans, jusqu'au tout dernier, Francia, publié cette année, dont nous parlerons plus tard. L'une des toutes premières nouvelles que vous avez envoyées sans succès à des magazines s'intitulait « Le palais du massage ». Vous l'avez écrite à 18 ans. Que s'y passait-il ?
La première. Je savais à quoi m'en tenir. Enfin, j'étais allée pour un boulot de masseuse pour voir ce que c'était. On m'a expliqué ce que c'était. Et donc, je pouvais dire oui ou non. Mais je l'ai fait immédiatement dans une optique littéraire. Je voulais voir ça, étant donné que ça existe dans toutes les villes du monde, que des hommes rôdent à la recherche d'un contact sexuel anonyme. J'avais envie de voir qui étaient ces hommes et de quoi ils retournaient et de qu'est-ce qu'ils racontaient. J'ai vraiment un besoin de saisir la réalité. Donc, j'y vais. Dans la semaine qui a suivi, j'avais pondu cette dizaine de pages que je vendrai maintenant à 10 000 euros, je dis entre parenthèses, si quelqu'un veut les publier. Et moi, j'adore ce texte parce qu'il est très détaché, il est très factuel, il n'est pas sarcastique, il n'est pas dramatique. Il montre avec une sorte de neutralité bienveillante cet univers. Ensuite, bon, c'est évidemment de la prostitution, mais c'était pratiqué dans des conditions sécuritaires et hygiéniques absolument idéales, presque médicales, on va dire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le besoin qu'avaient ces hommes d'être perçus comme des individus et non pas comme juste un besoin ambulant. Donc, il y en a qui me montraient carrément des photos de leurs femmes et enfants ou de leur voiture, ou de leur maison. C'était pas toujours un monde juste de bourreaux et de victimes. Et moi, j'avais 19 ans. Je ne pouvais pas, évidemment, être écrivain déjà.
À l'époque, vous fréquentez plusieurs ateliers d'écriture new-yorkais, où vous côtoyez des auteurs et autrices en herbe.
J'étais en concurrence avec tous les autres étudiants pour être une meilleure écrivaine qu'eux. Je les détestais si le prof les louait. C'était extrêmement néfaste et névrotique, cette situation. Les gens parlaient déjà de comment ils allaient trouver un agent pour soumettre leurs nouvelles, etc. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Je ne suis pas restée dans cette voie, qui était une des voies qui était toute tracée pour moi de rester à New York et de faire partie de cette course destructrice à la célébrité. Je n'ai pas ici la place nécessaire pour grandir davantage.
Vous avez l'idée de partir en France. Vous arrivez à Paris le 3 septembre 1973, à 20 ans, dans le cadre d'un programme d'échange équivalent à Erasmus. Votre seul contact est une femme nommée Madame Baratin, qui dirige l'antenne parisienne de votre université. Et là, c'est l'euphorie. Vous allez vous inventer, vous auto-engendrer, devenir libre et autonome, sans l'aide et sans le jugement des vôtres. Vous rencontrez vite votre premier amour français, un berrichon, inscrit à l'école normale supérieure. Vous intégrez un groupe de jeunes 68ards, trotskistes, maoïstes, dont l'intelligence vous éblouit. Leur engagement politique est d'une sophistication théorique qui vous laisse pantoise. La formule est de vous, elle colle bien à cette ambiance. Vous défilez le poing levé, vous buvez du gaz lacrymo à grande goulée, vous chantez l'international et vous criez qu'il faut faire sauter toute la bourgeoisie. Pour vous mettre à niveau, vous lisez Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir ou Julia Kristeva, vous suivez et recopiez méticuleusement les séminaires de Jacques Lacan, vous tombez amoureuse de la langue française pour de bon. Or, votre copain Birichon, vous dit qu'écrire des romans ne sert qu'à épater les bourgeois.
En arrivant à Paris à 20 ans, je me sentais vieille déjà. J'avais tellement encaissé que je me sentais désabusée et cynique. Donc j'ai essayé vaguement de me transformer en révolutionnaire avec un couteau entre les dents.
Vos amis Frenchy vous encouragent à vous inscrire à l'École des hautes études en sciences sociales, dans l'espoir de devenir l'élève de Roland Barthes, l'incontournable sémiologue, linguiste et philosophe que tout le monde lit autour de vous, l'auteur intimidant du degré zéro de l'écriture, de la mort de l'auteur, de mythologie ou de fragments d'un discours amoureux qui régna sur le monde des idées des années 50 à sa mort en 1980. Vous vous mettez très tranquillement à la sémiologie et vous cherchez un sujet de mémoire à lui proposer, sujet que vous trouvez en posant nu comme modèle aux Beaux-Arts, ce qui devient votre principale source de revenus et vous apprend la dilatation du temps. Votre sujet de mémoire sera les jurons, les insultes, les blasphèmes, les gros mots, tout ce qui relève du tabou linguistique. De 22 à 24 ans, vous devenez une jurologue insomniaque.
Ce besoin d'écrire sur les jurons, vous voyez que c'est la même chose que le besoin d'aller voir dans le salon de massage ou d'écrire sur la prostitution, la pornographie, la guerre. C'est de prendre le taureau par les cornes, c'est de dire « bon, alors regardons ça en face ». Donc on peut parler d'un cul de bouteille, mais on ne peut pas dire le mot « cul » tout seul. C'est tous ces paradoxes. Et je crois qu'en tant qu'anglophone, récemment arrivée en France, j'étais 10 fois plus sensible à ces questions-là que n'importe quel Français qui s'en sert à tort et à travers.
Barthes trouve le sujet formidable, mais ne vous aide pas beaucoup. Cette thèse sera publiée en 1980 aux éditions Payot, intitulée « Dire et interdire ». J'y apprends que le mot « obscène » signifie tout simplement « qui ne peut pas être mis en scène », que la plupart des insultes modernes sont à connotation sexuelle et donc, 8 fois sur 10, misogyne ou homophobe, que Nancy en anglais signifie le cul, le postérieur, et que Miss Nancy veut dire être mollassonne ou poule mouillée. Je suis tenté de vous demander, d'ailleurs je vais le faire, quelle est votre insulte préférée en français ?
Pour de vrai, quand je veux vraiment insulter quelqu'un, oui, mais c'est affreux, parce que si quelqu'un m'écrasait dans la rue, je vais dire « connard », je vais crier « connard ». Et je dis « c'est affreux » parce qu'on insulte toujours le corps de la femme, ouais, c'est le con, voilà. Le con.
Quelle est votre insulte préférée en anglais ?
Asshole, bloody asshole. Ces mots sont plus proches des émotions, ils sont beaucoup plus stockés dans le cerveau droit et qui est lié donc au corps, à l'apprentissage des interdits quand on est petit, au contrôle des sphincters, etc. C'est au même âge que l'enfant apprend la propreté, qu'il apprend qu'il y a des mots qu'on ne doit pas dire et les deux vont être associés. Et vous ne pouvez pas juste défaire ça d'un acte de la volonté, ce n'est pas possible.
À propos de Roland Barthes, dont vous avez été l'élève au Collège de France jusqu'à son dernier séminaire, vous avez écrit dans Nord perdu le bref portrait suivant.
Cet homme à la fois fin et désabusé m'a appris à lire des textes, mais aussi le monde comme texte, à porter une attention maniaque aux mots et à leurs messages sous-jacents, qu'il parlât de l'amour ou du Japon, de l'opéra ou des ratures, du neutre ou de la photographie, Barthes avait une grâce et une générosité de pensée qui n'appartenaient qu'à lui. Si j'ai eu un vrai maître, c'est celui-là.
Barthes est aussi pour beaucoup dans votre goût prononcé pour les parenthèses, les deux points, les points-virgules et les phrases un peu trop longues. Vous avez résumé sa théorie ainsi. Abat l'écriture outil, fonctionnelle, porteuse de messages signifiants. Vive l'écriture pure, porteuse de plaisir, où forme et contenu sont mariés comme l'huile et le vinaigre dans une sauce. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette sauce qui a intimidé tant d'étudiants et d'étudiantes ?
En même temps, c'était quelqu'un qui était très frustré de ne pas être romancier. Et il a souffert de son excès de savoir, de son excès d'intelligence. Il était incapable d'une certaine innocence. Flannery O'Connor disait toujours qu'il faut avoir un certain degré de bêtise pour pouvoir écrire des romans. Cette bêtise lui était inaccessible. Il était comme le mille-pattes qui se demande avec quelle patte commencer à marcher. Ça, c'était une leçon pour moi. Par bonheur, dans ces mêmes années, le milieu des années 70, j'ai fait des rencontres dans le mouvement des femmes.
Effectivement, vous rédigez vos premiers textes pour des revues liées au mouvement des femmes. Vous vous rendez à des réunions non mixtes qui vous libèrent de votre besoin de plaire aux hommes dans une ambiance de solidarité sororale avec des femmes d'âge, de pays et de milieux très variés, des mères de famille, de jeunes lesbiennes. Nouvel éblouissement, c'est vivant, ludique. Ce sont pour vous des années incroyables, très riches, où vous vous sentez soutenu, écouté. Vous commencez à publier en 1976 dans la revue Sorcières, au pluriel, menée par des femmes d'un milieu plutôt aisé, souvent artistes. Et on peut lire des textes de Marguerite Duras, aussi bien sur la soupe aux poireaux que sur le choc qu'elle a en retrouvant son mari de retour des camps de concentration nazis, texte qu'elle reprendra plus tard dans son livre La douleur. On peut aussi lire, jusqu'en 1982, Michel Perrault, Pierrette Fleutiot, Françoise Daubonne ou André Chédid. Vous serez personnellement en charge du numéro spécial sur la mort.
Mes tout premiers textes, c'était des critiques de livres, notamment de Kate Millett, la grande militante américaine, de Anna Isnin aussi, son livre sur l'inceste. C'était une sorte de laboratoire de recherche sur l'écriture féminine. Hélène Cixous avait écrit un grand texte là-dessus. On va écrire à partir de notre expérience du corps. On n'a pas le même regard, on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas les mêmes vies que les hommes. On ne va pas essayer d'imiter l'écriture des hommes, mais en quoi ça pourrait bien consister une écriture féminine? On n'a pas arrêté de débattre là-dessus.
Vous prenez souvent des pincettes avec l'usage du mot féministe. Pourtant, toute votre œuvre, ou presque, est une dénonciation argumentée des violences systémiques et séculaires du patriarcat, une exploration documentée des conditions féminines. Vous avez dit une fois, plutôt que féministe, je me dirais volontiers antisexiste. Pourquoi ces réserves ?
Non, c'est juste que le mot recouvre beaucoup de choses différentes et c'est important pour moi de ne pas être contre les hommes. J'ai donné énormément de temps et consacré énormément de pages aux garçons. Je pense beaucoup plus que la plupart des féministes. Si j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Sois belle », qui raconte l'addiction féminine à la beauté, je vais écrire un livre en parallèle qui s'appelle « Sois fort », qui prend en compte l'injonction faite aux garçons et tout ce que ça peut induire aussi chez eux comme angoisse et difficulté. Si je fais un livre sur le viol, je vais aussi faire un spectacle avec des garçons qui s'appelle Le Mal Entendu, où je recueille leurs paroles et je l'apporte et je fais parler les hommes sur ce qui est le plus difficile à dire, sur leurs fantasmes, sur le désir de viol, sur la masturbation, sur la prostitution, sur l'infidélité, sur des choses comme ça. Mais c'est important pour moi d'entendre tout ça sans juste le condamner. Nos journaux télévisés sont consacrés pour 90% aux faits et gestes des seuls mâles dominants. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas le remarquer. Armée rutilante, équipe de foot, foule de mecs en colère qui brûlent et pillent, Assemblée nationale hérissée de messieurs en costard, Bourse du Monde avec traders qui sautillent et s'égosillent, rassemblement solennel d'évêques, d'imams et de rabbins, partout où l'on pose le regard, rien que des mâles dominants. Alors, pour inverser la vapeur, je dis aux femmes, mes sœurs, il nous faut de toute urgence cesser de faire l'amour et des bébés avec les hommes arrogants, riches et puissants, et apprendre à désirer les doux, les faibles, les incertains, les fauchés. Là, ce serait une révolution. Bon, c'est sûr qu'il faudra attendre quelques petites dizaines de millénaires pour obtenir des résultats probants, mais c'est la seule solution, alors allons-y, mes sœurs. Aimons les hommes doux.
Vous publiez aussi dans la revue Histoire d'elle, au pluriel également, moins théorique, moins distinguée, où règne un joyeux brouhaha. Ça discute et ça se dispute, car ce journal est un endroit où les femmes pourront parler de guerre, de politique, du nucléaire, de justice, du terrorisme, loin des schémas masculins. Vous participez à toutes les étapes de fabrication du journal, dont chaque numéro se vendait en kiosque à 10 000 exemplaires.
Oui, là, c'est vraiment le début de ma vie d'écrivaine. Mais c'est dans une optique de lutte et de solidarité pour un mouvement auquel je crois de tout mon cœur. peut-être la mère qui m'avait toujours manqué, je l'ai trouvée dans cette situation-là. La découverte de ces deux groupes de femmes qui n'étaient pas là juste pour dénoncer des hommes, mais pour vraiment inventer en bossant ensemble, ça a été parmi les plus belles années de ma vie. Avec les deux groupes, nous nous sommes retrouvés 50 ans plus tard, parce qu'on est devenus objet d'histoire. Il y a des jeunes universitaires qui travaillent sur ces publications. Et c'est extrêmement fort, les liens que j'ai noués. Je n'oublierai jamais mon euphorie à écrire en sachant que ça allait être publié et que c'était des femmes que j'admirais qui me l'avaient commandé et qui me faisaient confiance. Là, je sens le battement de cœur de la professionnelle. C'est extrêmement valorisant et rassurant de sentir que je suis enfin à ma place.
Radio.com.